Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici dans ce forum, ce forum Claude Duneton pour cette nouvelle rencontre dans le cadre de la foire du livre du Brive, avec un ouvrage justement sur lequel on peut véritablement parler de livre dans le sens large, car il ne se rattache pas véritablement aux, j'allais dire, données traditionnelles, aux repères traditionnels. Est-ce qu'on est du côté du récit, de la biographie, ou d'autres choses, du document? En tout cas, c'est toute l'ambiguïté du travail de notre invité, Yvan Jablonka, que je remercie d'être présent parmi nous à l'occasion de la parution de ce qui a été, dès le mois d'août, un des événements de la rentrée littéraire, à savoir ce livre, Goldman, publié au Seuil. Goldman, juste un nom, mais je pense que vous reconnaissez évidemment la photo si vous êtes ici. Ce n'est évidemment pas hasard. Bonjour Yvan, tout se passe bien ?
Bonjour, merci d'être venu nous écouter. Je suis très heureux d'être là à la Foire du Livre de Brive. Merci à vous, Baptiste Liger, de dialoguer avec moi. Et oui, tout va bien. Comment pourrait-il en être autrement ?
En effet. En tout cas, Yvan Jablonka, on vous connaît depuis quelques années avec l'apparition d'Histoire des grands-parents, je n'ai pas eu, mais vraiment le grand public vous a découvert avec Laetitia ou La fin des hommes, qui a été un ouvrage événement sur l'affaire Laetitia Perret, qui vous a fait vraiment découvrir à de très nombreux lecteurs et ensuite à des spectateurs grâce à la série adaptée justement de votre travail, qui vous a valu le prix Médicis, qui a eu ensuite d'autres ouvrages, notamment Camping Car, que moi j'aime beaucoup. Et donc, dans cette rentrée, sort cet ouvrage, Goldman. Bien sûr, vous avez reconnu Jean-Jacques Goldman. Mais je vais commencer cet entretien avec cette question. Pourquoi ce titre, Goldman? Simplement ce nom. Est-ce que c'est pour parler, par exemple, d'un nom de famille, précisément?
D'abord, je voulais être clair sur mon attitude vis-à-vis de cette hyperstar qu'est Jean-Jacques Goldman. Et il m'importait de rappeler que Jean-Jacques, comme chacun sait, a fait vœu de silence, ou en tout cas de discrétion, et a disparu volontairement de la scène publique. Donc ma position était la suivante. Jean-Jacques, il faut le laisser tranquille. Il vit sa vie de père de famille et de grand-père désormais entre Marseille et Londres. En revanche, Goldman, l'icône, l'hyperstar, celui qui est entré dans la légende de son vivant, lui, il fait partie de notre histoire. Ça fait 50 ans qu'il ponctue la vie des Français. Et en tant qu'historien, j'étais tout à fait fondé à raconter sa vie, son parcours, son œuvre, précisément parce que raconter sa vie, c'était aussi raconter nos années Goldman, c'est-à-dire tout simplement notre jeunesse, notre adolescence, jusqu'à aujourd'hui, tant il est vrai que les tubes de Jean-Jacques Goldman ont traversé les générations. Et puis il y a aussi l'idée que au-delà de Jean-Jacques Goldman, il y a une famille, un père qui a profondément influencé son fils, un demi-frère, Pierre Goldman, qui a défrayé la chronique, et au-delà, toute une famille, et puis peut-être aussi des millions d'immigrés, Goldman ou Jablonka, qui sont venus d'Europe de l'Est pour faire leur vie en Occident.
Alors, vous êtes historien, vous l'avez rappelé, le mot histoire est absolument essentiel, avec un grand H ou un petit H, justement. Est-ce que, à travers l'histoire de cette famille Goldman, des Goldman, vous avez aussi voulu parler de nombreuses familles qui auraient pu lui ressembler d'une certaine manière. Est-ce que c'est une sorte de destin commun que vous avez voulu raconter à travers, en tout cas, une partie de ce livre ?
De manière générale, j'ai voulu montrer comment un individu ne peut être compris si on ne le rapporte pas au collectif qui le fabrique, qui le façonne. Et nous tous, en tant qu'individus, on doit être compris, rapporté à notre famille, à notre socialisation, à notre génération, à notre nationalité, à notre politisation, etc., etc. Et ce qui est vrai pour nous l'est aussi pour Jean-Jacques Goldman. Et j'ai voulu raconter précisément comment il a été le produit d'une famille, d'institutions républicaines, d'une époque, de structures professionnelles ou musicales qui ont permis tout simplement qu'il existe. Qu'il existe non pas en tant que Jean-Jacques, mais en tant que Goldman. Et sa famille, ici, a joué un rôle important pour la culture, pour la judéité, mais aussi pour la politique. Jean-Jacques Goldman vient d'une famille très militante. Le père Goldman était un communiste dès les années 20 et 30, mais il n'était pas stalinien. Alors que mon propre grand-père, qui a eu le même parcours, lui, était à la fois communiste et stalinien, ce qui est très différent. Et puis, de cette branche centrale qu'est le père Goldman, ont émergé des rameaux comme Pierre Goldman, Jean-Jacques Goldman et d'autres. Et chacun incarne une sous-famille de la gauche française. Pierre Goldman, qui a défrayé la chronique judiciaire dans les années 70, était un militant d'extrême-gauche qui s'est progressivement dévoyé dans le gangstérisme, alors que Jean-Jacques Goldman, lui, a fait le choix d'une gauche plus libérale, modérée, démocratique. Et je crois qu'il était intéressant de comprendre Jean-Jacques Goldman par différence avec son père, son demi-frère, parce que Goldman a inventé les tubes que nous connaissons, mais aussi il a contribué à un courant politique que j'ai appelé le goldmanisme et qui renvoie à toute une philosophie politique et aussi de la vie en société.
Alors, on est, comme on l'a compris, sur un ouvrage qui pose des questions historiques, sociales, sociétales, identitaires, politique et au niveau vraiment des idées politiques, mais vous le faites, et c'est pour ça que le livre est si accessible et aussi plaisant à travers l'odyssée musicale d'un individu. Alors, avant qu'il devienne la star qu'on connaît, qui était le jeune Goldman qui se lançait dans la musique fin années 60, début années 70? À quoi il ressemblait? Est-ce qu'il avait le profil déjà du type qui voulait devenir une star?
Aujourd'hui que Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des Français depuis une quinzaine d'années, presque 20 ans en fait, on oublie à quel point Jean-Jacques Goldman a été dans les années 70 ce qu'il faut bien appeler un loser professionnel. Il a tout fait pour percer et il a mis presque 15 ans à émerger et on oublie qu'il a produit, chanté des chansons qui ont été des bides complets. Et c'est paradoxal parce que il y avait déjà le son Goldman, la pensée de Goldman, la musique de Goldman, et pourtant ça ne marchait pas. Et donc d'une certaine manière, c'est pas Jean-Jacques Goldman qui a changé ou qui a découvert quelque chose, c'est plutôt une période qui est devenue beaucoup plus réceptive à son art, à ses paroles, à sa pensée, à son engagement. En tout cas, dans les années 70, c'était un musicien plutôt falot, comme il se décrit lui-même, qui a participé à un certain nombre de groupes qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Le seul tube dont Goldman a été l'interprète et non pas l'auteur s'appelle Sister Jane et il est sorti en 1975, au même moment que L'été indien, par exemple, qui a eu davantage de succès, et au même moment aussi où son demi-frère Pierre Goldman sort ce qui sera un des succès de librairie de l'année, son livre « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France » où il explique qu'il n'est pas coupable des homicides volontaires dont on l'accuse. Et donc au milieu de ces années 70, Jean-Jacques Goldman est au creux de son insuccès, de ce qui est une forme d'échec, provisoire bien sûr, et on pourrait dire que la chanson française a failli se renouveler sans lui, puisque dans toute la fin des années 70, les grands tubes sont signés de Souchon, Bachung, Higelin, Michel Berger, France Gall, Gainsbourg, et dans tout ce renouvellement de la chanson française, Goldman, lui, est en train d'échouer. Et puis, quelques années plus tard, après ce retard à l'allumage, les premiers tubes arrivent et se succèdent jusqu'à aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui explique ce succès, à votre avis, et le fait que Goldman ne soit pas, j'allais dire, resté le petit vendeur de chez Sport 2000, puisque voilà, c'est aussi un pan de sa vie, sa famille tenait un magasin de sport où on le voyait volontiers?
Je ne peux pas répondre simplement en invoquant l'immense talent de Jean-Jacques Goldman. Un historien ne peut pas se satisfaire de cette explication. Et donc, il faut comprendre pourquoi Jean-Jacques Goldman a été aussi l'enfant de son époque, et en particulier de cette décennie miraculeuse, les années 90. Il y a d'abord sans doute un sentiment, enfin une volonté de renouvellement, d'optimisme, qui se lie dans l'élection de François Mitterrand. Et ce n'est pas un hasard si Jean-Jacques Goldman émerge à ce moment-là par un tube plein d'énergie et d'optimisme qui s'appelle « Il suffira d'un signe ». Ce qui est paradoxal puisque Jean-Jacques Goldman a souvent dit publiquement qu'en tant qu'homme de gauche, il se flattait de ne jamais avoir voté François Mitterrand, qui était pour lui l'archétype de l'homme de droite cynique et florentin. Bon, c'est l'avis de Jean-Jacques Goldman qu'il faut entendre, mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Cet homme de gauche ne s'est jamais reconnu dans cette gauche mitterrandienne. Mais il y avait sans doute cette préscience de la part de Jean-Jacques Goldman qu'un renouvellement profond était en cours. Et puis, il y a aussi le fait que Jean-Jacques Goldman a bénéficié objectivement d'une révolution audiovisuelle qui a eu lieu dans les années 80. Et pour le dire rapidement, cette révolution audiovisuelle a vu la naissance des radios libres, de la bande FM, de Canal+, et de son émission phare, le Top 50, tout un renouvellement visuel dans la musique qu'on appelle le clip, aujourd'hui complètement banal, mais qui à l'époque ne l'était pas. Et toutes ces structures, la bande FM, les radios libres, les clips, le Top 50, ont objectivement favorisé Jean-Jacques Goldman, qui a été en quelque sorte l'enfant chéri de son époque. Et il faut aussi ajouter à cela une réinvention de la politique, à travers non pas des syndicats et des groupuscules politiques, ça c'est plutôt la génération de Pierre Goldman, mais plutôt des causes, des engagements moraux, et ce n'est pas un hasard là non plus si Jean-Jacques Goldman est devenu en quelque sorte le parrain de causes comme celle de SOS Racisme ou des Restos du Cœur. Et je crois que là, on a, je l'ai dit volontairement rapidement, mais là je crois qu'on a les causes explicatives, aussi bien sur le plan audiovisuel que politique, de Goldman, de la Goldmania et du goldmanisme.
Vous montrez aussi un argument musical qui est particulièrement troublant lorsqu'on réécoute ses chansons après lecture du livre. Vous insistez sur sa capacité à avoir su synthétiser des genres très variés en France, comme la pop, le rock, la chanson à texte, la variété française et le gospel, par exemple.
Oui, en effet, beaucoup disent que Jean-Jacques Goldman n'a rien inventé. Comme vous le savez, Jean-Jacques Goldman a eu autant de succès que de mépris qu'il a...
On va y venir,
donc je ne veux pas anticiper. Mais beaucoup pensent que Goldman n'a littéralement rien inventé. Et d'une certaine manière, on pourrait leur donner raison, tant il est vrai que Goldman n'est pas un novateur au sens où Gainsbourg et Michel Berger renouvelle profondément la pop française. En revanche, le génie de Goldman, si génie il y a, c'est celui de la synthèse. Et le son Goldman, c'est un syncrétisme, un œcuménisme qui rend Goldman complètement inclassable et qui me permet de dire qu'il relève à la fois de la soul, du blues, du rock, du hard rock, de la poésie et de la chanson à texte. Donc bien malin celle ou celui qui sera capable de dire exactement de quel genre Jean-Jacques Goldman relève. Et je crois que c'est ça précisément l'originalité du son Goldman, c'est cette capacité à être un ogre musical, à phagocyter tout un ensemble de genres jusqu'au zouk et aux musiques populaires de son dernier album, puisqu'il a même convoqué de la cornemuse dans son dernier album de 2001. Et ça, je crois qu'il y a une force syncrétique chez Goldman qui explique sa popularité increvable et le fait que 20 ans après sa disparition volontaire, il parle encore à de nombreuses générations.
Pour expliciter ce propos, vous vous attardez en particulier sur plusieurs chansons. Il y a une chanson iconique sur laquelle, évidemment, on a envie de s'arrêter particulièrement aujourd'hui. C'est « Comme toi », qui était loin d'être une chanson calibrée pour être le tabac absolu qu'on connaît, justement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et revenir sur ce côté, à votre avis, très brillant de « Comme toi » ?
Alors, il faut se replacer en 1982, donc François Mitterrand vient d'être élu. Jean-Jacques Goldman est encore décrit avec condescendance comme un chanteur à minette. Et Jean-Jacques Goldman, après avoir traversé l'insuccès et l'échec pendant 15 ans, vient enfin de percer avec un tube « Il suffira d'un signe ». Et en 1982, il sort un album qui deviendra une pépite de tubes et de méga-tubes avec « Quand la musique est bonne » ou, en l'occurrence, « Comme toi ». Il se trouve que « Comme toi » est une chanson qui parle de quoi ? De la mémoire de la Shoah et d'une petite fille de 8 ans assassinée par les nazis. Et il a fallu beaucoup de courage et de fidélité à son histoire pour avoir l'idée de proposer à une heure de grande écoute un sujet aussi tragique et aussi peu évident. D'une certaine manière, si Jean-Jacques Goldman avait vraiment été ce chanteur à minette que ses contempteurs méprisaient, je crois qu'il aurait vraiment choisi d'autres thèmes. Et il fallait vraiment qu'il soit fidèle à son passé, à son histoire, à sa famille, pour vouloir, avec autant de sérieux et de pudeur, raconter cette histoire, et en plus, sans dire les mots qui auraient rendu cette histoire évidente pour tout le monde, nazisme, génocide, juifs, etc. Donc on peut entendre cette chanson de deux manières. On peut l'entendre comme une belle mélodie un peu nostalgique autour d'une fillette qui s'appelle Sarah, et on peut aussi l'entendre comme une des toutes premières chansons mémorielles sur ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah, et pour cause, le film de Claude Lanzmann n'était pas encore sorti, il allait sortir 3 ans plus tard. Et ça me permet de dire que Jean-Jacques Goldman a été à la fois courageux et visionnaire, puisqu'il a été un des tout premiers à ouvrir cette période mémorielle qu'est la décennie 1980, l'ère du témoin, comme l'a qualifié ma collègue Annette Wieworka. Et puis ensuite, il y a eu tout ce qu'on sait, le film Shoah de Claude Lanzmann, le livre Les lieux de mémoire de Pierre Nora, le procès de Klaus Barbie et d'autres collaborateurs du régime de Vichy, etc., etc. Mais dans cette conjoncture mémorielle, Comme toi, je crois, marque vraiment un jalon.
Dans ce livre, vous montrez tout le paradoxe Goldman dans les années 80. Énorme succès, les disques cartonnent, les concerts sont pleins à craquer, mais ça c'est un premier aspect. De l'autre côté, la presse, notamment parisienne, de droite comme de gauche, et particulièrement de gauche, en fait, j'allais dire tout simplement, un de ses boucs émissaires. Et extrait à l'appui, vous nous montrez cet accueil, comment dire, c'est le moins qu'on puisse dire, quelque peu sarcastique à son égard.
Ça aussi, on oublie trop facilement que Goldman a été abondamment méprisé et conspué par la presse nationale et tout particulièrement par sa famille politique, la presse intellectuelle de gauche. Pour ne pas les citer, Le Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Libération, c'est-à-dire véritablement la famille politique de Jean-Jacques Goldman. Et sans doute, ça a été une blessure pour lui, puisque au moment où il émerge, il est rejeté à la fois par la presse rock, qui le trouve trop proche de la variété, et par la presse intellectuelle de gauche, qui, par mépris du populaire, trouve que aimer Goldman, c'est vraiment tout à fait malséant et en quelque sorte répréhensible. Et ça, je crois que c'est intéressant parce que ça nous renvoie à la place de la pop et de la pop culture en France et ailleurs. C'est un genre qui est partout dans nos vies. C'est un genre qui nous habite, qui nous accompagne de la naissance jusqu'aux obsèques. Et pourtant, c'est un genre qui est méprisé par l'élite, comme si cela relevait des plaisirs coupables. Et comme beaucoup de fans et d'ex-fans de Goldman me l'ont raconté dans les entretiens que j'ai menés avec elle, quand on était une fille de milieu populaire, il était impossible de dire qu'en plus on aimait Goldman parce que tout de suite ça vous cataloguait comme une fille un peu bébête, un peu gnangnan, un peu cruche, etc. Tout particulièrement quand vous entriez soit dans les universités ou les classes prépa de centre-ville, soit dans les milieux plus favorisés où là, Goldman en particulier et la chanson populaire en général devenaient carrément malséantes. Et je crois que c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à l'histoire culturelle du mépris. Pourquoi méprise-t-on les goûts du peuple ? Et pourquoi quand on est un journaliste à Télérama, par exemple, on peut se permettre de mépriser ceux qui aiment Céline Dion ou Jean-Jacques Goldman, alors même, bien sûr, qu'on se dit de gauche, c'est-à-dire normalement en lien, en prise avec les goûts du peuple. Une autre raison pour laquelle Goldman a été abondamment méprisé tient au fait qu'il était, pour ces mêmes journalistes, trop lisse, trop peu rebelle, trop peu révolutionnaire, pas assez Pierre Goldman. C'est-à-dire qu'on faisait en permanence le reproche à Jean-Jacques de ne pas être assez Pierre. Et le dernier argument, je crois, c'est une forme de misogynie qui s'en est pris à Goldman, tenant d'une masculinité fragile, vulnérable, et aussi à son public. Parce que la fan type de Jean-Jacques Goldman dans les années 80, c'est la fille de milieu populaire ou de classe moyenne qui vient de la campagne, des petites villes, des banlieues, en tout cas tout sauf des centres-villes chics. Et je crois que Goldman méprisé, c'est tout son public qui devenait méprisable. Et donc dans le mépris vis-à-vis de Goldman, il y avait, je crois, aussi une forme de condescendance misogyne par rapport aux millions d'adolescentes qui se pressaient à ces concerts.
Est-ce que ce mépris du populaire est toujours présent ou c'est quelque peu tari ? On peut se poser la question, pas plus tard qu'il y a quelques jours, lorsqu'on a appris l'attribution du prix Goncourt à Jean-Baptiste Andréa, que certains médias ont taxé de roman populaire dans le mauvais sens du terme, point de suspension. J'ai rien dit.
C'est pour ça qu'au-delà de Goldman, je crois qu'il faut mener une réflexion sur les goûts populaires, c'est-à-dire en fait nos goûts. Et ça peut aller de la pop à la littérature, en passant par la bande dessinée et tant d'autres genres littéraires, d'autant plus ignorés par les historiens et les sociologues qu'ils sont méprisés par eux. Alors, pour ce qui est de Goldman, je crois que ça a beaucoup changé parce que Goldman est devenu non seulement mainstream, mais légitime. Et la preuve en est que, quand mon livre est sorti il y a 2 mois et demi, il a eu les honneurs de cette même presse qui avait tant méprisé Jean-Jacques Goldman 30 ou 40 ans plus tôt. J'en suis très heureux, dont acte. Et je crois aussi que, au-delà de l'époque, c'est aussi les journalistes qui ont changé. Parce que ceux qui conspuaient Jean-Jacques Goldman dans les années 80, c'était en gros des hommes qui étaient d'ex-Mao ou d'ex-Trotskistes dans les années 70 et qui, dans les années 80, étaient entrés en masse dans cette presse que j'évoquais. 30 ou 40 ans plus tard, les journalistes culture ou musique sont des jeunes femmes qui donc sont nés dans le son Goldman ou dans le son Mylène Farmer et qui rendent hommage à celle Mylène Farmer ou celui Jean-Jacques Goldman qui sont désormais des icônes pop. Et Télérama, justement, qui a été méprisé par Jean-Jacques Goldman lui-même par retournement du stigmate, Jean-Jacques Goldman a formé le néologisme de téléramisme pour dénoncer ce mépris du populaire. Donc Télérama, il y a 2 ans, a sorti un numéro spécial sur la pop avec un article très intéressant intitulé « Pourvu qu'elle soit pop ». Vous aurez deviné l'hommage au tube de Mylène Farmer « Pourvu qu'elle soit douce ». Et dans ce numéro spécial, Télérama montrait à quel point ces stars du pop-rock à la française ont complètement réinventé la musique populaire et sont maintenant idolâtrés par les artistes d'aujourd'hui que sont Stromae, Angèle, Pomme, Juliette Armanet, etc., etc. Et en ce sens, on est entré dans un modèle sociologique beaucoup plus omnivore. Et ce caractère omnivore explique que moi, qui suis précisément socialisé dans ces milieux de la bourgeoisie chic des centres-villes, moi, précisément, aujourd'hui prof de fac, j'ai consacré un livre à Jean-Jacques Goldman. Et d'une certaine manière, ce livre est aussi l'enfant de son temps.
Tout un pan de votre Goldman s'attarde évidemment sur la disparition progressive de Jean-Jacques Goldman, notamment par le fait d'écrire pour les autres, parce qu'on a tendance à oublier que l'envie de Johnny Hallyday, c'est Goldman, « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion, c'est Goldman, « Aïcha » de Chapralette, c'est lui, etc., etc., etc. Comment vous la qualifieriez, cette disparition progressive du monde médiatique, en tout cas ?
On pourrait dire que toute la vie et le parcours de Goldman tournent autour de la notion de succès. Dans les années 70, c'est la recherche désespérée du succès. Dans les années 80, c'est un succès démentiel qui lui tombe dessus et qui, en quelque sorte, l'épuise. Et à partir de la fin des années 90, c'est la répudiation du succès jusqu'à aujourd'hui où Goldman veut tellement redevenir anonyme qu'il n'est sorti de son silence que pour critiquer le livre que je lui ai consacré en tant qu'historien. Ce qui est quand même un exploit de ma part, je m'en flatte. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la fin des années 90, Goldman se dirige peu à peu vers l'absence. C'est quelque chose qu'il a tout de suite annoncé dès le début de sa carrière. Un jour, je partirai. Et d'ailleurs, il y a de très nombreuses chansons où il décline cette idée qu'un jour, il va disparaître, un jour, il va partir et il va nous quitter. Et il ne faudra pas être triste. C'est d'ailleurs le sens de « Puisque tu pars », une chanson que des dizaines de milliers de Français interprètent comme une chanson de deuil. Et donc, beaucoup de gens sont enterrés sur ces sonorités.
Il faut bien écouter les paroles de cette chanson parce qu'en fait, elle est beaucoup plus générale. Évidemment.
C'est une chanson du départ, une chanson de l'adieu qui peut être interprétée de manière autobiographique, c'est-à-dire Goldman nous annonce qu'un jour il va partir et qu'il faudra par amour le laisser partir. En tout cas, dès la fin des années 90, Goldman, à mon sens, se dirige vers l'absence, déjà parce qu'il se fond dans un groupe, Fredericks Goldman Jones, dont deux membres n'ont évidemment pas sa notoriété, donc c'est déjà une manière un petit peu de se faire oublier ou de se mettre entre parenthèses. Et puis, il y a aussi que, comme vous l'avez rappelé, certains de ses très grands tubes, il les consacre, il les donne à d'autres que lui. Patricia Cass, Céline Dion, Patrick Fiori, Khaled et tant d'autres. Et d'une certaine manière, c'est déjà une forme d'invisibilisation volontaire. Il est en train de se diriger vers l'absence et même ce que j'ai appelé l'omni-absence. Et on y est aujourd'hui puisque il a décidé que, enfin, il a eu cette naïveté toute goldmanienne de croire qu'il pouvait revenir à l'anonymat. Et d'une certaine manière, il est agacé par le fait que, année après année, nous l'élisions personnalité préférée de la nation Goldman. Et d'une certaine manière, ça va dans le sens d'une radicalité qui est propre à sa famille et qu'on retrouve chez son demi-frère Pierre. Et cette radicalité, c'est de vouloir définitivement se retirer de la vie publique et même de la conscience publique. Mais quand on est l'auteur de l'envie de Puisque tu pars et de Quand la musique est bonne, c'est rigoureusement impossible et nous le savons bien.
Alors justement, avant de vous laisser la parole, j'aimerais vous poser cette question. Personnalité préférée des Français dans le classement du JDD, je ne sais plus combien de fois, enfin c'est considérable. Comment vous expliquez cette capacité à fédérer et à être plébiscité durant tout ce temps, Yvan Jaboncar?
Je crois qu'il y a chez Jean-Jacques Goldman une unité unique, une unité exceptionnelle entre l'homme, l'artiste, celui qui sait s'engager et celui qui s'investit dans des causes. Et à ce point de vue-là, à cet égard, Jean-Jacques Goldman est irremplaçable et n'a pas été remplacé même par des stars de son calibre comme de son vivant Johnny ou aujourd'hui Renaud ou Sardou. Certes, ce sont des hyperstars à la tête d'un répertoire sans équivalent, mais ils n'ont pas ni les qualités morales ni l'engagement social et fédérateur qu'on reconnaît à Jean-Jacques Goldman. Et en ce sens, ce n'est pas un hasard si Jean-Jacques Goldman, officiellement depuis 12 ans et officieusement depuis 20 ans, est personnalité préférée des Français. Alors comment l'expliquer? Par la variété de son répertoire, le fait qu'il y a une chanson de Goldman par étape de nos vies, du berceau à la tombe, en passant par l'adolescence, la jeunesse, l'amitié, les amours, la parentalité, les ruptures amoureuses. Il y a aussi les engagements de Jean-Jacques Goldman qui date des années 80, mais jusque dans les années 2010, à travers les Restos du Cœur en particulier, et qui font de lui un homme qui incarne la solidarité, la fraternité, l'entraide et la réciprocité, c'est-à-dire des choses qu'on se doit les uns aux autres. Je terminerai par ce qu'on considère être comme des qualités morales et... c'est des choses qui m'ont été dites par des dizaines de fans, comme l'humilité, la discrétion, la sensibilité, la fidélité à une histoire. Et là aussi, je crois que ce sont des qualités qui sont assez uniques et qui font de Jean-Jacques Goldman quelqu'un qui ne triche pas, qui n'a jamais triché ni avec le système ni avec son public, et quelqu'un également qui incarne la philosophie, une philosophie du vivre ensemble. Et il faut croire qu'elle nous manque, puisque la popularité increvable de Jean-Jacques Goldman se rapporte aussi avec toutes les valeurs dont il est l'incarnation, qui sont d'une certaine manière en déclin, mais qui sont, on le voit, plébiscitées à travers lui.
Merci beaucoup, Yvan Jablanca. Alors, avez-vous des questions à poser à notre invité ? Remarque, quelle qu'elle soit. Monsieur, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Merci d'être là. Une petite question. Vous avez évoqué à un moment donné le goldmanisme. Quand j'ai lu l'ouvrage, il y avait un des traits, j'allais dire, importants, principaux, qui était le déterminisme ou la lutte contre le déterminisme. Voilà. Et comment... dans Laetitia, c'était le contraire. Vous étiez sur quelque chose où on voyait tout de suite le déterminisme. Donc ça, il y a un lien entre les deux. Mais ma question, elle est plus sur... en même temps, il revendique son héritage et en même temps, il lutte contre un certain déterminisme à travers, j'allais dire, au moins une dizaine de chansons. Voilà. Comment vous analysez ce déterminisme particulier ou cette lutte contre le déterminisme de Goldman ?
Oui, vous avez raison de dire que le mot déterminisme est central dans le répertoire de Goldman, mais à contrario. C'est-à-dire que de très nombreuses chansons, la plus célèbre est « Envole-moi », mais il y en a beaucoup d'autres, de très nombreuses chansons montrent qu'on peut aller au rebours des verdicts du destin. On peut inventer son parcours, sa liberté. On peut s'arracher à tous les déterminismes. Et à cela, Jean-Jacques Goldman a ajouté que l'énergie personnelle ne suffit pas. Il faut aussi l'aide d'institutions républicaines, tout particulièrement l'école. Et c'est pour ça qu'une chanson comme « Envole-moi » ou « Il changeait la vie » sont des hommages à l'école, l'école républicaine, dira-t-on, et aussi à ceux qui l'animent, les professeurs, un simple professeur, comme Jean-Jacques Goldman le dit. Donc, l'énergie personnelle d'un côté, les institutions scolaires et républicaines de l'autre, permettent aux gens de s'en sortir et de s'arracher au verdict du destin. Cependant, il y a un paradoxe que je trouve fascinant, c'est que Jean-Jacques Goldman, jusqu'à ce qu'il devienne la star que l'on connaît, c'est-à-dire jusqu'au tout début des années 80, a eu, lui, un destin tout à fait standard. C'est-à-dire qu'il est resté à Montrouge, la ville où il a grandi et où il a vécu quasiment toute sa vie, et après avoir fait une grande école de commerce, il a choisi de reprendre le magasin de sport de ses parents. C'est difficile d'être plus suiviste et d'être plus déterminé par toute une ambiance familiale et géographique. Et c'est jusqu'à son premier mariage qui a été déterminé par la famille et la ville, puisque, comme il l'a dit publiquement, sa première femme habitait à une rue de là où il a grandi, et donc, il l'a dit lui-même, « je me suis marié avec la voisine ». Et donc, le paradoxe fascinant de Jean-Jacques Goldman, c'est que celui qui chantait « on ne sera jamais des standards » a eu, lui, un destin familial et professionnel tout à fait standard. L'explication, selon moi, c'est que quand il dit qu'on peut s'arracher à son destin, il ne pense pas à lui, il pense à son père. Et donc, tout son art consiste à chanter le parcours de son père, l'émigré, l'exilé, celui qui s'est arraché à son destin. Et s'il peut le faire, c'est parce que lui est tout à fait intégré et a grandi dans un milieu tout à fait classique, dans la France tranquille des années 50. Donc c'est parce que les fils sont arrivés qu'ils peuvent raconter les chemins de leur père. Et c'est très exactement ce que j'ai fait moi-même dans l'histoire des grands-parents.
D'autres questions, interventions dans le public ? Monsieur, au fond, on va vous apporter le micro, monsieur. Au fond. La parole est à vous.
Oui, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors moi, je ne suis pas un fan de Goldman. Il n'y a pas de mépris de ma part, plutôt une indifférence musicalement, au niveau des mélodies, au niveau des accords, il n'y a pas de résonance. Il y aura pour moi un vrai changement en 87-88, quand il va écrire le morceau « Là-bas ». Là aussi, il y a un changement politique. Et après, quand il va être avec Jones et Fredericks, là, je trouve qu'il y a un vrai changement, en tout cas dans sa dimension musicale. Il va aller vers d'autres aventures et d'autres sons. qui vont, en tout cas pour moi, être voilà, une vraie découverte de ses qualités de compositeur et d'interprète. Voilà. Donc je voulais juste avoir votre écho par rapport à ça, si pour vous aussi, il y a eu un avant et un après ce morceau-là.
Merci d'ailleurs, là-bas, vous développez d'ailleurs sur cette chanson dans votre ouvrage, Yvon Jablonka.
Oui, votre expérience est intéressante parce que ça montre bien qu'à chacun son Goldman. Et chacun peut se reconnaître dans un moment de la vie, du parcours de Goldman. Dans les années 70, il était au sein d'un groupe de rock symphonique qui s'appelait Taifong. Et il y a eu beaucoup de fans, même si Jean-Jacques Goldman n'émergeait pas vraiment à cette époque. Ensuite, il y a eu le Goldman mainstream des années 80 avec les méga-tubes que tout le monde connaît. Et puis, vous avez raison de dire qu'il y a des Goldman un petit peu plus discrets. Le Goldman de Céline Dion est un Goldman à part entière. L'album de Céline Dion 2, qui est à ce jour l'album francophone le plus vendu dans l'histoire du disque, c'est un album superlatif qui est un des monuments de la pop. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il est paroles et musique Jean-Jacques Goldman. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de tubes de Patrick Fiori qui sont paroles et musique Jean-Jacques Goldman. Donc, d'une certaine manière, vous voyez que Goldman a eu, comme les chats, plusieurs vies. Moi, je suis très sensible à la période là-bas parce que je pense qu'on est vraiment au cœur du goldmanisme, c'est-à-dire une réflexion sur le départ, l'exil, la capacité à s'arracher à son confort pour tenter sa chance ailleurs. Il l'avait déjà dit dans une chanson un peu oubliée qui s'appelle « Brouillard ». Il l'avait déjà dit dans une autre chanson qui s'appelle « Long is the road ». Et il le redira plus tard comme dans des chansons qui sont là encore des monuments de la pop, comme « On ira »,« J'irai où tu iras », etc. Donc pour moi, là, c'est vraiment le... Bon, pour le dire de manière un peu pompeuse, je dirais que ce sont les chefs-d'œuvre du goldmanisme, les chansons de l'exil, qui sont d'ailleurs... qui renouvelle l'exégèse biblique, puisque comme l'Éternel le disait à Abraham, tu quitteras la maison de ton père pour aller vers le pays où je t'indiquerai. Et ça, c'est le moteur le plus profond du goldmanisme.
J'y pense, il y a un point commun entre Goldman et vous. Il n'a pas écrit une chanson qui s'intitule Laetitia aussi, comme votre livre ?
Oui, c'est vrai. Je l'ai découvert avec amusement, avec tendresse. Il a écrit en 1978 une chanson qui s'appelle Laetitia. Mais le plus intéressant ici, c'est pas ma petite histoire, c'est que quand on l'écoute, on croirait à s'y méprendre une chanson de Michel Berger. Alors bien sûr, on reconnaît bien la voix de Jean-Jacques Goldman, mais je vous recommande de l'écouter sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, pardon, ou sur YouTube, et vous verrez que la mélodie, comme les thèmes, sont très très proches de Michel Berger. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que Jean-Jacques Goldman est un auteur-compositeur extrêmement prolifique, mais il a toujours payé sa dette à Michel Berger, et ça se sent dans les paroles comme dans les musiques, dans les mélodies, à la fin des années 70, jusque dans la collaboration avec Céline Dion, puisque la collaboration entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion est un petit peu le symétrique de Starmania, c'est-à-dire la collaboration de Michel Berger avec Luc Plamondon. Deux grandes collaborations franco-canadiennes qui nous font monter vraiment au sommet du pop-rock à la française.
Une dernière question. Sûr et certain. Oui, madame.
C'est juste un commentaire. J'ai lu votre livre. J'encourage tout le monde à l'acheter. Il est vraiment super.
Ah bah alors.
Merci. C'était une bonne conclusion, mais je ne vous connais pas et je ne vous ai pas payé.
En tout cas, merci. Juste un détail. Vous savez que cette année, l'hymne de la Star Academy, nouvelle saison, c'est Au bout de mes rêves, que tout le monde connaît probablement. Est-ce que vous allez regarder TF1 ce soir ?
J'aime beaucoup la Star Academy, je le dis en toute simplicité. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ici encore une fois mes goûts, mais c'est plutôt la filiation. Parce que comme vous le savez, le directeur de la Star Academy, c'est le fils de Jean-Jacques Goldman. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà des tubes de Jean-Jacques Goldman qui sont incontournables, ce qui est intéressant, c'est cet amour de la télévision grand public ou des radio-crochets ou des télé-crochets, c'est-à-dire ce qui, encore une fois, nous réunit. Et je crois que la Star Academy réussit cela.
Voilà, merci beaucoup Yvon Jablonka, Goldman. c'est le titre de cet objet riche et passionnant à plus d'un titre dans l'excellente collection La Librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil. Vous êtes justement en dédicace sur le stand de cette maison d'édition. Passez une très bonne fin de journée ici à Brive. Merci.